qu'on reçoit ce soir Martin du comité Tchétchénie Paris pour faire un, pour essayer un petit peu de comprendre et de donner un peu de, d'antenne à ces questions de la Tchétchénie. Jérémy.
Oui, on va commencer tout de suite. Hein, donc Martin, est-ce que tu peux nous présenter un peu le comité Tchétchénie, depuis combien de temps il existe et qu'est-ce que c'est que le comité Tchétchénie?
Bien, alors le comité Tchétchénie, c'est une association loi 1901 depuis 2004, mais il s'est formé dès 1999 au début de la seconde guerre en Tchétchénie. Donc il regroupait des universitaires qui étaient qui s'intéressaient plus particulièrement à la Russie et au Caucase. On avait également des militants qui s'étaient déjà pas mal bougés au moment des guerres en Yougoslavie. Donc c'est ça le noyau. Nos trois actions principales, on va dire, c'est la sensibilisation de la population française au conflit là-bas, qui n'est pas forcément connu, loin de là. Ensuite, le lobbying, l'action politique, donc auprès des institutions françaises et européennes. L'aide aux réfugiés de Tchétchénie, qu'ils soient russes ou tchétchènes d'ailleurs, puisqu'on peut avoir des Russes persécutés aussi en Tchétchénie. J'oubliais aussi un élément, c'est que on aide évidemment les ONG russes à se faire connaître en Europe à avoir des rendez-vous avec des personnalités politiques. On les reçoit et évidemment on essaye de leur donner tout ce qu'ils demandent.
Alors pour commencer, est-ce que tu peux, donc on dit qu'on parlait de la Tchétchénie, est-ce qu'on peut un peu resituer un peu cet état, où est-ce qu'il se situe, qu'est-ce qu'il y a dans son sol, combien d'habitants il y a, enfin quelle est sa situation géopolitique en fait.
Alors la Tchétchénie est une république autonome de la Fédération de Russie, donc ça se trouve en Russie plus précisément donc sur la barrière du Caucase, au Nord Caucase, c'est-à-dire au nord de la Géorgie pour situer. C'est donc aux frontières de l'Europe, puisque le Caucase est effectivement la frontière entre l'Europe et l'Asie. La Tchétchénie, donc c'est tout petit, hein, ça représente environ 13 000 km², ça fait un département français, ses habitants sont au nombre de 700 000 à peu près aujourd'hui. On n'a pas de chiffres vraiment précis à ce sujet, mais les évaluations permettent de dire 700 000, ouais.
Alors, il y a des enjeux de ressources. Enfin, je veux dire, c'est un pays qui vit de quoi historiquement? Il y a une agriculture, il y a un artisanat, une industrie.
Alors, la Tchétchénie, c'est des agriculteurs, des bergers, et disons leur malheur, c'est qu'il y a aussi du pétrole en Tchétchénie. Qui a été découvert donc au début du siècle, essentiellement, enfin déjà un petit peu avant, à la fin du 19e siècle, mais début du 20e siècle se met en place toute une industrie du pétrole. La Tchétchénie était exploitée par l'Union soviétique essentiellement pour fabriquer des huiles pour les avions parce que c'était le pétrole était d'une qualité telle qu'il permettait ce type d'utilisation aujourd'hui les ressources sont quand même largement inférieures à ce qu'elles étaient cependant. Donc la Tchétchénie était un pays assez riche et assez riche en pétrole. Je pense que ça a joué un rôle donc dans son destin, en particulier dans le déclenchement de la Première Guerre.
Oui, pour revenir sur le pétrole, sous Grozny, il y a une nappe de pétrole qui fait que pendant la guerre, les gens creusaient dans leur maison pour trouver du pétrole. C'est ce qui est expliqué un peu dans le livre.
Oui, tout à fait. Aujourd'hui encore, je vous ai dit, le potentiel de la Tchétchénie est beaucoup plus faible qu'auparavant. Et néanmoins, le pétrole joue un rôle très négatif puisque il y en a encore à très faible profondeur. Donc il est très facilement exploitable et malheureusement ça joue comme un moteur de la guerre actuellement puisque tout le monde essaye de profiter de cette manne, les soldats russes qui sont placés donc en Tchétchénie, les combattants tchétchènes ont essayé donc d'utiliser cela pour gagner de l'argent, organiser des trafics, y compris avec les soldats russes ou avec leurs intermédiaires. Aujourd'hui encore, mettre la main sur ces ressources, bien ça intéresse tout le monde, donc ça encourage un maximum d'acteurs armés pour continuer leurs actions. Ça va même peut-être devenir un problème pour le gouvernement russe. Puisque les acteurs pro-russes qui sont quand même des pantins aux mains des Russes voudraient tout de même mettre la main sur ces ressources. Donc ça peut créer aussi des tensions à l'intérieur même du camp pro-russe. Donc le pétrole, c'est vraiment c'est à la fois pas assez pour légitimer, on va dire, dans une morale utilitariste une guerre, mais c'est assez pour la faire perdurer.
Alors, pour finir de dresser un petit peu le tableau de ce qu'est la Tchétchénie, historiquement, on verra sur les évolutions qu'il y a pu y avoir récemment. La religion là-bas, c'est quoi d'abord, c'est quelle confession et quelle place ça prend dans cette société?
Donc, les Tchétchènes sont sunnites et soufis. C'est-à-dire que bon, la religion sunnite, bon, on la connaît, c'est un courant quand même majoritaire dans l'islam contemporain. Le soufisme, donc c'est une forme mystique de la religion musulmane qui s'est installée au XVIIIe et au XIXe siècle, surtout en Tchétchénie. Auparavant, on avait surtout des formes païennes de religion. Avec des dieux, des déesses. Et au 18e, 19e, ça s'installe en même temps que la résistance à l'occupant russe. C'est pour ça qu'aujourd'hui encore, la religion est considérée comme un élément patriotique. Il y a aussi quelque chose qui a pris... un petit peu en Tchétchénie pendant les deux guerres, c'est ce qu'on appelle le wahhabisme, hein, c'est les Russes qui appellent ça le wahhabisme. C'est donc un courant dur de l'islam qui est né, qui s'est surtout développé en Arabie Saoudite. C'est quelque chose qui est très exogène en fait à la Tchétchénie, qui est pas du tout qui vient pas du tout de la tradition tchétchène, mais ça a pris un peu d'importance parce que ça servait de caution idéologique à certains chefs de guerre, qui en plus, grâce à cette démonstration de radicalisme arabe, enfin, pardon, musulman, recevaient de l'argent des Arabes. Donc ça jouait ce rôle-là.
Une autre question aussi, peut-être pour comprendre la résistance tchétchène et la situation, c'est que la société est structurée en clans, en taïeb, qui en fait explique aussi l'organisation de la résistance, justement, peut-être. Non.
Oui, la résistance s'est organisée aussi en fonction des taïeb, des clans. Mais je pense qu'il ne faut pas exagérer le rôle de ces clans. Ils sont importants, c'est des moyens, si vous voulez, pour les Tchétchènes de se reconnaître, de se créer une solidarité, une organisation. Bon, ils n'ont jamais disparu, bien sûr, mais à une certaine période, les gens avaient un peu du mal à savoir de quel clan ils étaient exactement. Mais avec la guerre, effectivement, il a fallu trouver des formes de régulation, des formes d'auto-organisation, aussi d'auto-représentation de soi. Et on a été chercher dans la tradition, on a trouvé effectivement les clans, les types. Et incontestablement, aujourd'hui, lorsqu'un Tchétchène, par exemple, est réfugié, arrive en France, ben on va essayer de savoir de quel clan il est pour déjà les mettre au courant, qu'ils puissent donner de l'aide à ce jeune homme. Et effectivement, les gens de son clan vont se sentir plus concernés par son affaire que d'autres, quoi.
Alors peut-être que tu évoquais ça tout à l'heure déjà du temps de la Russie. Il apparaît que la Tchétchénie a toujours résisté à son grand voisin et que a toujours été martyrisée par son grand voisin. Est-ce qu'on peut à grands traits tracer les rapports de la Russie avec la Tchétchénie, y compris ce qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale sous le règne de Staline
Oui, bien sûr, la Tchétchénie, c'est un peuple de résistants. Enfin, les Tchétchènes aiment bien se voir comme ça. Et c'est vrai que quand on se penche un peu sur leur histoire, on découvre que pendant effectivement 4 siècles, à partir de 1785, en tout cas, c'est très fort, ils sont en lutte permanente contre l'envahisseur russe, qui ne s'intéressait guère à la région, mais était surtout très très intéressé par ce qu'il y avait au sud, donc et qui voulait des débouchés sur qui voulait plus de débouchés sur la mer Noire, qui voulait être en sécurité vis-à-vis des Ottomans, qui voulait être en sécurité vis-à-vis des Perses antérieurement. Donc la Tchétchénie n'était pas en elle-même un enjeu, mais une sorte d'accès au Sud-Caucase, de manière à stabiliser les fronts, en fait, avec des adversaires de la Russie, qui étaient en expansion à cette époque. Par la suite, la Tchétchénie a continué à jouer ce rôle, y compris donc au moment de la révolution de 1917 et par la suite quand il a fallu établir de manière bien délimitée les frontières de l'URSS ou en tout cas du pays des soviets. Donc ça a donné lieu en particulier en 1919 à une et de 1919 à 1921 à une guerre extrêmement dure donc entre les bolcheviks et les tchétchènes.
Alors dernier point de cette histoire qu'on trace à grands traits, qu'est-ce qui se passe en 1944?
Oui, bien sûr. Alors, 1944, là, je parlais des choses peut-être moins connues. 1944, effectivement, Staline a déporté la totalité du peuple tchétchène le 23 février parce qu'il voyait arriver les troupes allemandes et il a saisi, en fait, ce prétexte pour, finalement, s'assurer que ces peuples constamment rebelles ne poseraient plus de problème. Il a envoyé les Tchétchènes, mais aussi d'autres peuples de la région qui lui posaient le même type de problème. Et c'était toujours des peuples musulmans, parce qu'on craignait beaucoup le poids, l'importance de la région, de la religion dans ces sociétés. On pensait que ça empêchait finalement à l'État russe et soviétique d'installer son pouvoir réellement.
En ce moment, juste pour revenir sur la déportation, il y a un film qui passe, qui est soutenu enfin, par le comité tchétchénie, qui circule à Paris, en tout cas en ce moment, donc j'ai oublié le nom, mais tu vas me le rappeler, non?
Coca?
Non, vous n'en avez pas parlé dans l'agenda, je ne sais plus. Bon bref, voilà, il y a un film qui circule en ce moment sur la déportation du peuple tchétchène. Guillaume.
Je continue. Donc, à la suite de la déportation, en fait, je voudrais savoir les conséquences de la déportation, parce qu'en fait, je crois qu'elle a duré de 44 à 57, au moment de la déstalinisation. Khrushchev a permis au peuple tchétchène et aux autres populations de pouvoir revenir sur leur territoire, mais la propriété du sol, entre-temps, a changé de main, et notamment, il y a eu une sorte de russification, où une partie des terres sont revenues notamment les meilleures aux Russes. Et est-ce que ça a eu des conséquences sur l'organisation, est-ce que ça a eu un poids par la suite au moment des luttes à partir de 90, 99, sur l'organisation de la société qui explique un peu les tensions?
Oui, tout à fait. Les conséquences de la déportation ont été extrêmement importantes. La totalité du peuple a été déporté. Des colons sont venus occuper la place vide, mais essentiellement dans la plaine. Ils ne sont pas du tout intéressés aux montagnes. Les montagnes ont été vidées, totalement par l'État russe. Les villages de montagne eux-mêmes ont été détruits et abandonnés pour certains. Quand ensuite les Tchétchènes sont retournés sur leur terre, il a été très difficile pour eux de se réinstaller, y compris donc dans la capitale, Grozny, où assez peu de Tchétchènes ont pu se réinstaller à partir de 1957. Ils se sont retrouvés dans des villages essentiellement du Piémont, isolés un peu de la population russe, très regroupée à Grozny et dans le nord. Ceci dit, petit à petit, dans les années 60, 70, 80, une certaine mixité est apparue et les Tchétchènes ont petit à petit réussi à faire des études, à entrer, à faire carrière un petit peu dans leur propre république. Ceci dit, ils étaient toujours suspects et n'accédaient pas au plus haut poste hiérarchique. Hein. Ça, c'est certain. La présidence du Soviet suprême ne revenait pas à un Tchétchène, alors même que dans toutes les autres républiques autonomes, elle revenait à quelqu'un de la République, originaire de la nation de la République.
بين سيدا لم نشكح وحججنا سيد وإذا خر مدوت سخيدا إذي تشرير دوتي يا وي وإذا خر مدوت سخيدا إذي تشرير دوتي يا وي إذي تشرير دوتي يا وي إذي تشرير دوتي يا وي آخر مدود سخیدا ایدی تو شلیر دو پیه وی ایدی تو شلیر دو پیه وی ایدی تو شلیر دو پیه وی چولم نشکوالی شو دنیا برکت شسی ایلیش تا خز بیازم خستو سخیوش لیر دو تیوی ایلیش تا خز بیازم خستو سخیوش لیر دو تیوی سخیوش لیر دو تیوی Сахнуло шлир дутиевой,
Voilà, c'est Letchi Magamet Motzaïev, qui est un réfugié tchétchène, réfugié en France, et qui interprétait un hymne tchétchène. On est toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3. On est avec Martin du comité Tchétchénie, et on essaye un petit peu de comprendre ce qui s'est passé, ce qui se passe encore aujourd'hui en Tchétchénie. On va faire un grand bond en avant dans l'histoire qu'on essaye de retracer. Peut-être on arrive en 1989, il y a la chute du mur de Berlin, et derrière ça, pour un certain nombre de républiques de l'ex, désormais ex-URSS, il y a la possibilité d'accéder à l'indépendance. Pour certaines, ça va se passer relativement bien, relativement vite. Par contre, qu'est-ce qui se passe pour les velléités d'indépendance de la République tchétchène?
Alors, en fait, la République tchétchène, c'est effectivement une république autonome et non pas donc une et non pas une république vouée à avoir son indépendance. Elle n'est pas, c'est pas une république fédérative. Les Tchétchènes n'ont pas vocation, d'après on va dire la constitution de l'URSS, à demander leur indépendance. Néanmoins, donc 89 ouvre effectivement des possibilités donc aux indépendantistes un peu partout en URSS. Les Tchétchènes entendent en profiter également. Ils ne sont pas les seuls. Il y a aussi le Tatarstan, qui est également une république autonome et qui n'avait pas vocation à demander une indépendance, qui va demander cette indépendance. En fait, ce mouvement est accéléré et encouragé par Eltsine, qui à l'époque est en conflit avec donc le l'homme fort du RSS, donc Gorbatchev, qui lui veut conserver son appareil de pouvoir et l'URSS dans sa totalité. Eltsine, lui, va s'appuyer sur les mouvements indépendantistes parce qu'il veut détacher la Russie, s'appuyer sur les nationalités pour casser l'URSS à son profit. Et c'est pour ça qu'il va proposer aux nationalités qui composent l'URSS et la Russie de prendre autant de souveraineté qu'elles peuvent en avaler. Ses propres termes. À partir de là, évidemment, beaucoup de républiques vont essayer d'obtenir l'indépendance. Cela se fait en plus au moment du putsch manqué des conservateurs du parti communiste qui essaye de renverser donc Gorbatchev en 91. Ça crée un grand trouble et les Tchétchènes en profitent à ce moment-là pour créer un comité national et proclamer et réclamer l'indépendance, qu'il proclame donc le 1er novembre 91. Voilà, c'est le déclenchement.
Bah oui, qu'est-ce qui se passe donc en Tchétchénie à ce moment-là, cette indépendance, sur quoi elle repose, comment se passe la vie là-bas, quoi?
Mais en fait, pendant les dernières années de l'Union soviétique, des mouvements ont commencé à émerger. Les gens sentaient qu'il y avait plus de liberté en URSS et entendaient en profiter. C'est passé d'abord par des mouvements écologistes, parce que la Tchétchénie, donc, vivait du pétrole et était concerné par de gros problèmes donc liés à son exploitation. C'est sur un prétexte, on va dire écologique, que les mouvements ont demandé plus d'autonomie dans la gestion de la République. Et puis le mouvement prend de l'ampleur en 91 à la faveur de ce putsch manqué. Se crée donc ce comité. Patriotique, à la tête duquel vient se placer un général, le général Doudaïev, Djokhar Doudaïev, qui était donc général de l'aviation russe, et qui vient à ce moment-là de refuser de bombarder donc les Baltes, qui eux aussi réclamaient leur indépendance. Donc lui, il revient de cette de ce qui était encore l'URSS dans les pays baltes, pour réclamer l'indépendance en Tchétchénie. Et c'est quelqu'un qui a une certaine assurance, qui a du prestige militaire et qui va convaincre par le radicalisme de ses propos un certain nombre de Tchétchènes à réclamer l'indépendance. Ça tombe assez bien finalement pour Eltsine parce que ça déstabilise le pouvoir local qui hésitait en fait, qui ne savait pas trop quel bord choisir, ou bien Eltsine ou bien Gorbatchev la vieille URSS. Vont s'en suivre pas mal de troubles parce que tout le monde dans la République de Tchétchénie n'est pas d'accord pour l'indépendance. Loin de là, il y a des gens qui étaient en place, on va dire, qui n'ont pas du tout envie de laisser le pouvoir s'en aller. Bon, Doudaïev n'est pas quelqu'un de très facile non plus, il a des milices armées, etc. Il y a des gens qui se sentent pas en sécurité. Et il y a encore beaucoup de Russes en Tchétchénie, à peu près 30% de la population. Néanmoins, ça ne débouche pas sur la guerre. Les Russes n'interviennent pas dans un premier temps. Eltsine va quand même déclarer l'état d'urgence. Mais les troupes russes en fait vont quitter le territoire tchétchène, laissant d'ailleurs leurs armes derrière eux. Et la situation est tolérée parce qu'en fait c'est pas le problème principal de la Russie à ce moment-là. Il y a beaucoup de trafic en Tchétchénie à cette époque qui se transforme un peu en lieu de passage entre la Turquie et la Russie. Les affaires sont assez fructueuses. Ça ne dérange pas trop la Russie à l'époque. Les tensions montent de plus en plus entre pro-russes et indépendantistes. La situation tend quand même à se stabiliser d'un point de vue... les indépendantistes ont vraiment pris le contrôle de la République. Petit à petit, ils ont une nouvelle constitution en 1992. Les Russes commencent quand même à se poser des questions. Le Tatarstan, au même moment, leur pose le même problème. Finalement, ils vont réussir à maintenir le Tatarstan dans la Fédération de Russie en donnant une large autonomie aux Tatars. Ces compromis-là ne sont pas possibles avec les Tchétchènes. Eltsine entre maintenant dans une période où il faut restabiliser le pouvoir russe, où il faut consolider maintenant les frontières, où il faut exploiter ce pétrole et maintenir la puissance russe dans la région. On évoque aussi le problème des dominos, c'est-à-dire que si on commence à laisser la Tchétchénie prendre son indépendance, qui est, la Tchétchénie est juste la frontière de la Russie, est-ce que les autres républiques ne vont pas, elles aussi, demander leur indépendance, l'obtenir? Est-ce que la Russie ne va pas se déliter? Eltsine veut s'imposer par la force et rétablir l'ordre constitutionnel. Il l'attaque donc en 1994. Cette attaque vient après l'échec de renverser les indépendantistes de l'intérieur, c'est-à-dire grâce aux forces pro-russes. Les Russes aident des Tchétchènes favorables à la Russie. Ça ne marche pas, et donc en désespoir de cause, ils interviennent militairement par eux-mêmes. Ils envoient la troupe.
Mais ils justifient ça comment? On regarde
rétablissement de l'ordre constitutionnel, c'est leur propre mot. Alors,
c'est un problème de règlement intérieur. En fait.
Oui, tout à fait. C'est le but, c'est de nier cette indépendance qui a été proclamée unilatéralement par les Tchétchènes. Et de rétablir l'ordre de la République. C'est le seul motif invoqué, si vous voulez. C'est pas, il n'est pas question d'attaque tchétchène, quelle qu'elle soit.
C'est comme si la Corse, aujourd'hui, se proclamait indépendante. On enverrait la troupe pour...
Alors, donc, 94-93, c'est ce qu'on va appeler la première guerre de Tchétchénie. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a un dénouement relativement inattendu à cette guerre. Quelles sont les forces en place et qu'est-ce qui va se passer pendant ces deux ans?
Oui, alors, effectivement, le dénouement, bon, c'est la victoire militaire et politique des Tchétchènes. Et c'était tout à fait imprévu, effectivement. En 94, lorsque Eltsine décide d'entrer en guerre, donc ses motifs, c'est rétablir le contrôle. Et il pense qu'il va pouvoir le faire très facilement, en quelques jours ou quelques semaines au maximum. Et en réalité, c'est pas du tout ce qui se passe. Les troupes qui sont envoyées, bon, c'est des chars. Bon, c'est la méthode bien soviétique. On envoie des chars et comme ça a été fait à Prague. Et puis, comme les forces adverses ne sont pas suffisamment puissantes, elles vont être impressionnées, elles vont céder. Et en réalité, c'est pas du tout ce qui se passe. Les chars qui entrent dans Grozny sont quasiment tous détruits. C'est une débâcle totale. Ils sont en fait piégés à l'intérieur des rues de la capitale et ils se font détruire les uns après les autres avec des missiles anti-chars, quoi. Et la catastrophe est telle que les Tchétchènes eux-mêmes ont pitié de ce qui est en train d'arriver aux Russes, quoi. Des jeunes appelés là, qui sont en train de se faire massacrer pour une action finalement qui était presque de police, selon les dires de Boris Eltsine. Donc c'est un fiasco et ça déclenche forcément plus de violence de la part des forces russes qui veulent cette fois-ci mater ces Tchétchènes qui résistent beaucoup plus que prévu. Les forces russes ne vont pas hésiter à bombarder Grozny très très fortement, à envoyer leurs troupes de choc et début 95, ils prennent le contrôle de Grozny. Par la suite, ils vont assez vite progresser dans la République. Il faudra donc une prise d'otage à Budionovsk, donc un hôpital russe, pour retourner un petit peu les choses. C'est Basayev, donc un chef de guerre tchétchène qui va devenir de plus en plus célèbre, qui mène cette opération. Qui tient en otage donc un millier de personnes dans un hôpital les Russes vont finir par négocier après avoir essayé d'investir l'hôpital et il va pouvoir rentrer en Tchétchénie. C'est considéré donc comme une victoire par lui et par un certain nombre de Tchétchènes. Et ça va mener à des tractations entre Tchétchènes et Russes pour arrêter la guerre d'une manière ou d'une autre. Mais les combats continuent, on arrive à de nouvelles tractations, les combats continuent à nouveau. Une nouvelle prise d'otage en 95, cette fois-ci dans la république voisine du Daghestan. Disons que les Russes voient bien qu'ils s'enlisent. La population russe est de plus en plus hostile à ce conflit parce que les médias couvrent assez bien ce qui se passe, la presse, mais également la radio et la télévision. Les maires de soldats russes qui ont pris de plus en plus d'importance, donc c'est des associations qui défendent les jeunes appelés. Les maires de soldats sont assez écoutés et on les voit même récupérer chez les Tchétchènes des soldats russes qui ont été bien traités, etc. Donc la population russe voit bien que la Russie s'est fourvoyée. Et ce qui va déclencher la fin de la guerre, finalement, c'est que les Tchétchènes arrivent à reprendre Grozny en 96, à la tenir. C'était déjà arrivé auparavant, mais les Russes voient bien qu'ils ne peuvent pas s'en sortir facilement militairement. Et on arrive à des accords de paix, donc en fin 1996, à Rassavyurt.
Ça n'a pas de cas, je viens de tout de la fin. Je viens d'un arbre, vous, ça n'a pas de cas.
Voilà, vous êtes toujours sur Fréquence Paris Plurière, vous écoutez Les Oreilles Loin du Front. C'était un hymne national tchétchène par le groupe Pankissi. On est ce soir, donc, on parle de la Tchétchénie avec Martin du comité Tchétchénie. Alors, Boris Eltsine annonce que les Tchétchènes sont des chiens enragés, qu'il faut les abattre comme des chiens enragés. Un peu plus tard, Poutine va déclarer qu'il butera les terroristes jusque dans les chiottes. Mais entre ces deux guerres, il y a une phase de stabilité relative en Tchétchénie qui commence en 96. Donc, Martin, tu vas nous parler de cette phase et de cette montée de l'islamisme, ce qui va être un des déclencheurs de la deuxième guerre en Tchétchénie.
Ouais, disons que ça commence déjà donc à la fin de la première guerre, des groupes armés se réclament de plus en plus d'une obédience islamique, le wahhabisme, et ça leur permet de recevoir de l'argent donc des pays arabes. Et aussi, on pense du FSB, donc les services secrets russes, qui ainsi vont pouvoir manipuler la résistance tchétchène elle-même. Bon, ces groupes prennent de plus en plus d'importance. Shamil Basayev, donc qui est le grand chef de guerre, qui s'est illustré, on en a parlé précédemment par des prises d'otages, se rapproche de ces groupes islamistes, notamment un certain Ratab, donc qui vient de Jordanie et qui est wahhabite, qui vient de l'étranger et qui aide donc les résistants tchétchènes. Il faut savoir que cette aide de l'étranger et des pays arabes en particulier a été certes importante, mais ne représente pas non plus des sommes très fortes. Ce n'est pas non plus un appui politique fort, mais bon, voilà, ça va donner quand même une certaine légitimité à ces troupes de recevoir de l'argent. Et ils prennent tant d'importance que lorsque la première guerre prend fin, on a deux parties en présence, deux parties principalement. C'est d'un côté le groupe des modérés qui est dirigé par Aslan Masradov et de l'autre des gens proches de Ratab et de Basayev, mais pas seulement. Basayev n'a pas le contrôle total sur les wahhabites ni sur l'ensemble de la résistance. Cette résistance est assez atomisée déjà. Des chefs de guerre d'ailleurs ont pris beaucoup d'importance lors de la première guerre et utilisent leurs armes pour faire fructifier divers trafics. Il y a néanmoins des élections démocratiques sous l'égide de l'OSCE, donc en 97, et Aslan Masradov, le modéré, est élu président avec une très forte majorité, et c'est plutôt bien parti. Néanmoins, les aides à la Tchétchénie de la part des États occidentaux et de la part de la Russie, qui était pourtant déclarée favorable à un développement de la Tchétchénie, les aides sont très très faibles, et donc l'économie du pays tend à se criminaliser. Les groupes les plus extrémistes kidnappent donc des personnes et demandent rançon en échange. C'était une pratique qui s'était mise en place déjà pendant la première guerre, et c'était surtout d'ailleurs les forces russes qui la pratiquaient. Mais ça a été ça a acclimaté en quelque sorte. Les Tchétchènes ont utilisé cela, notamment des groupes comme celui de Barayev, qui a, semble-t-il, été à l'origine de l'exécution d'occidentaux à peu près à cette période. Donc la criminalisation monte, les groupes wahhabites aussi. Le président Masradov est mis en difficulté, il est obligé d'établir la charia en 1999, ça tombe bien parce que justement les Russes se sont dit que il serait assez intéressant de passer à une nouvelle guerre, de prendre leur revanche. Les généraux russes d'ailleurs considéraient la fin de la guerre comme une trêve, ils étaient prêts à reprendre la guerre. En plus, Eltsine est en mauvaise passe puisqu'il est accusé donc de corruption à un très 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 haut niveau. Et il a perdu tout son crédit vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis de l'intérieur. Donc c'est le moment de rétablir la puissance de l'État militairement, mais aussi même sur l'économie, puisque on a vu beaucoup de nouveaux riches prendre de plus en plus d'importance en Russie. Il faut rétablir l'ordre en quelque sorte. Alors se présente le dauphin de Eltsine, Vladimir Poutine, qui va s'appuyer sur cette deuxième guerre de Tchétchénie pour s'imposer. Il le fait grâce à l'incursion de Basaïev au Daghestan. Basaïev qui prétend fonder une république islamique dans cette république voisine, ce qui déclenche évidemment la réponse immédiate de la Russie. On a également à la même période malheureusement des terribles attentats qui se déroulent donc en Russie, à Moscou et aussi au Daghestan. Ces attentats, on n'a jamais pu prouver que c'était les Tchétchènes qui les avaient commis, mais l'opinion publique est retournée. Ce qui compte aussi, c'est que le climat a changé, la presse maintenant et surtout les médias télévisuels radiophoniques sont au bord du pouvoir. Tout est prêt pour organiser une nouvelle guerre à huis clos. Donc 1999, en réponse à la fois aux attentats et à l'incursion de Basaïev, la nouvelle guerre se déclenche, plus violente encore que la première, avec immédiatement des bombardements sur Grozny, sur la population civile. On a une foule de réfugiés qui se pressent sur les frontières. Les réfugiés sont même bombardés par l'aviation. La Croix-Rouge elle-même est bombardée. On assiste à des crimes contre l'humanité qui ont été ensuite tout à fait prouvés, y compris d'ailleurs par la Cour européenne des droits de l'homme. On y viendra peut-être.
Alors moi, il y a aussi une occupation russe extrêmement, extrêmement forte, puisque il y a à certaines périodes, c'est expliqué dans le livre. Quand on croise quelqu'un dans la rue en Tchétchénie, il y a une chance sur quatre quasiment pour que ce soit un soldat russe parmi les civils. Donc c'est quand même une occupation qui est extrêmement importante. Enfin, parmi ces Russes, il y a près de la moitié d'eux qui sont des mercenaires. Enfin, c'est une situation, terrible. Quoi.
En Tchétchénie, une personne sur dix est un militaire russe. On a à peu près 700 000 civils, 700 000 Tchétchènes, et on a 70 000 soldats russes au minimum. Au déclenchement de la Seconde Guerre, on avait plus de 100 000 hommes dans l'armée russe. Mais à cela, il faut ajouter également aujourd'hui les milices tchétchènes pro-russes qui prennent de plus en plus d'importance et qui font même peur aux forces fédérales russes à l'heure actuelle. Les Russes ont réussi à se donner des alliés, à créer une collaboration en fait. Et celle-ci est encore plus dangereuse limite que les forces russes, puisqu'elle elle connaît la société tchétchène et elle peut donc saper ses bases de résistance beaucoup plus profondément. Et efficacement.
On va parler peut-être de la situation actuellement en Tchétchénie. Enfin, tu parlais des réfugiés. Peut-être qu'on peut passer sur les réfugiés tchétchènes. Tu parlais que les réfugiés étaient bombardés par les Russes. Ils sont toujours bombardés par les Russes. Aujourd'hui, la situation des réfugiés tchétchènes, comment on fait un réfugié pour arriver en Europe? Qu'est-ce qui se passe pour lui arriver à la frontière?
Peut-être avant d'en venir là, juste les réfugiés dans un premier temps, ils ne voulaient pas partir trop loin de la Tchétchénie, ils pensaient que ça allait peut-être pas durer si longtemps que ça, cette guerre, et donc ils se sont massés sur les frontières et dans les républiques voisines. Je voudrais juste dire que après donc les premières batailles extrêmement dures et surtout la chute de Grozny, donc en janvier, février, donc 2000. Les résistants vont se regrouper dans les montagnes, choisissent plutôt la guérilla. Et à partir de là, on peut dire que les Russes prennent le contrôle de la Tchétchénie de jour, tandis que les résistants la contrôlent de nuit. Cette situation-là, elle dure encore aujourd'hui, on peut dire. C'est-à-dire que on a encore des combats qui se déroulent dans les montagnes. Pour l'essentiel, dans la plaine, c'est terminé. Même dans les montagnes, c'est sporadique. Mais il y a toujours de la résistance tchétchène. Elle existe en grande partie parce que, à partir de 2000 et une sorte de victoire militaire russe tout de même sur l'ensemble du territoire, on est passé de l'attaque à un contrôle extrêmement dur policier de la population. On est passé à l'occupation proprement dite, avec l'instauration d'un gouvernement pro-russe. C'est passé donc par un référendum qui est, pour tout le monde, est une plaisanterie macabre, malheureusement, c'est passé par une élection présidentielle. Le président ensuite a été assassiné, nouvelle élection présidentielle, dernièrement, donc 27 novembre 2005, élection législative. Suite à ces dernières élections législatives, Poutine a pu dire, voilà, la guerre de Tchétchénie est terminée, on arrive à la normalisation totale, puisque toutes les institutions ont été mises en place. On voit en fait quel est l'aboutissement et quel était le sens de son action jusque-là, c'était bel et bien de faire comprendre aux Russes, aux Tchétchènes et aussi au monde que il n'y avait plus de problème en Tchétchénie, que il n'y avait pas de combattants, que l'ordre était rétabli. Je pense que ça c'est très important d'appuyer sur cette stratégie russe qui marche jusqu'à un certain point, parce que nous occidentaux nous l'acceptons d'une certaine manière.
Oui, parce qu'il y a, tu nous disais que la deuxième guerre de Tchétchénie était bien plus violente que la première, les quelques récits de ce qui s'y passe, c'est assez invraisemblable, les exactions qui peuvent être commises par l'armée russe, par les milices qui sont mises en place, et il y a un silence total, et on pourrait rajouter à ça ce qui se passe depuis le 11 septembre 2001, depuis les événements du 11 septembre 2001, où d'un seul coup les Russes s'inscrivent dans l'axe du bien, dans la lutte contre le terrorisme, et il y a un silence lourd quand même.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que effectivement, en 1999-2000, des pays comme les États-Unis étaient plutôt défavorables à l'action de la Russie en Tchétchénie, et même le président Bush, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, a fait remarquer publiquement à la Russie que son action en Tchétchénie n'était pas acceptable. Et puis, effectivement, après le 11 septembre 2001, Poutine a dit, vous voyez bien, il y a des terroristes un peu partout, il y a du terrorisme international. Moi, j'étais le premier à le dire. Et vous voilà face à cette réalité, vous devez m'aider à lutter contre les Tchétchènes, parce que en luttant contre les Tchétchènes, vous luttez pour vous-même. Et ça marche. Maintenant, le gouvernement américain ne fait plus mention de la Tchétchénie dans ses déclarations à la Russie.
Y compris les gouvernements européens, quand on voit Chirac qui raconte Poutine, c'est pas au menu des discussions, ou ça l'est formellement comme on parle des droits de l'homme quand on va en Chine, mais il y a aussi un abandon des chancelleries européennes de cette question.
Oui, tout à fait. On peut dire que les exécutifs, en tout cas, les exécutifs ne s'intéressent pas du tout à la Tchétchénie, ou ne veulent surtout pas en parler en réalité. D'abord parce que la Russie fait partie de cette fameuse guerre contre le terrorisme. Ensuite, pour la France, c'est parce que la Russie est un allié contre les États-Unis. Enfin, on peut dire aussi, c'est vrai, dans l'affaire irakienne, par exemple, on a cherché du côté des Russes un appui pour lutter contre l'intervention. Donc, les jeux politiques sont favorables à la continuation de cette guerre en Tchétchénie. En plus, pour les Européens, il y a quand même le facteur pétrolier et surtout gazier. Hein, l'Europe tire énormément de son gaz des ressources russes. Dernièrement, d'ailleurs, il y a eu de nouvelles consultations dans le cadre du G8 entre les Européens et les Russes pour accroître le partenariat entre la Russie et l'Europe sur le plan énergétique. Alors, seul petit couac dans tout ce concert, c'est Angela Merkel qui, dernièrement, a fait mention de la Tchétchénie en disant publiquement, à la même table que Poutine, que la Tchétchénie, ce qui se passait en Tchétchénie n'était pas acceptable. Ça lui a été fortement reproché par Philippe Dostoblasi, qui quelques jours plus tard a dit qu'il ne fallait pas faire de leçons de morale faciles sur la Tchétchénie, parce que Monsieur Chirac est très très ami, on peut dire, avec Monsieur Poutine, en tout cas politiquement parlant, et il n'a pas du tout intérêt à lâcher ce partenariat. Alors, juste... par contre, je voudrais juste un petit bémol. Le Parlement européen, par exemple, est tout à fait clair sur la situation en Tchétchénie, parfaitement au courant, et dans ses déclarations, il pointe toutes les injustices commises là-bas, toutes les violences, tous les crimes. Donc, on est là dans un double discours. On a les parlementaires qui sont vraiment très clairs sur le sujet, très critiques vis-à-vis de la Russie, et les exécutifs qui ne suivent pas du tout. Donc il y a une sorte de schizophrénie de la part des Européens qui trouble beaucoup les Tchétchènes, d'ailleurs. Parce que ces Tchétchènes voient bien que les Européens savent que la population européenne est favorable plutôt à la paix en Tchétchénie et que les exécutifs ne veulent rien faire. Donc ils se sentent un peu trahis, ou on a l'impression qu'ils se sentent sacrifiés, quoi. Sacrifiés pour du gaz.
Et puis, dernier élément de un peu difficilement compréhensible de ce qui se passe autour de cette guerre en Tchétchénie, c'est le silence médiatique. Alors, effectivement, il y a cette chape de plomb, l'impossibilité d'envoyer un journaliste sur place, mais qu'est-ce qu'il n'y a pas que ça qui explique une telle indifférence Parce que là, faut être presque vicieux pour trouver des informations sur ce qui se passe en Tchétchénie actuellement.
Oui, il faut aller les chercher, ça c'est sûr. Bon, néanmoins, il y a des journalistes qui se rendent encore en Tchétchénie. Ça peut se faire. Mais c'est vrai que c'est très risqué. On ne peut pas y rester très longtemps. On prend le risque d'être enlevé. Je crois qu'en fait, il y a aussi le facteur éloignement culturel. Et c'est vrai que les Tchétchènes sont... c'est un petit peuple. C'est une culture qu'on n'a pas encore découverte. Ce sont des musulmans aussi. Alors, on les confond assez aisément avec des Arabes et avec quelque chose qui nous est étranger. Donc, il n'y a pas beaucoup de solidarité, finalement, pour ce peuple-là. Pas de solidarité culturelle. Bon, ensuite, il faut quand même dire que, comme il ne se passe rien politiquement, comme personne ne prend en fait cause pour les Tchétchènes, comme on peut prendre en fait cause pour les Palestiniens, par exemple, on n'a pas de processus politique que des journalistes pourraient suivre. C'est vrai que quand il se passe quelque chose politiquement, les journalistes ont quelque chose à se mettre sous la dent. Là, il n'y a rien à se mettre sous la dent. Il y a juste une situation de terreur extrême, mais qui est invisible. Ça se passe la nuit, les gens sont pris dans leur sommeil, ou bien ça se passe à 4 heures du matin. Donc il n'y a pas... Et ensuite, les gens sont emmenés dans des geôles où ils sont torturés, violés. Tout ça, c'est pas visible. Je veux dire, pour des médias, c'est intraitable comme sujet. Et c'est pour ça que qu'on essaye d'en parler le plus possible. Mais la parole, ne finalement, face aux images, c'est pas suffisant.
Donc bah là, l'émission va se terminer. Donc j'aurais pas eu ma réponse aux questions sur les réfugiés et je saurais pas ce que c'est que le règlement Dublin 2 parce qu'on a vraiment pas le temps. Et donc, mais on pourra trouver tout plein d'informations donc sur le site du Comité Tchétchénie qui est comité-tchétchénie.org. Et également le livre que le Comité Tchétchénie a publié aux éditions La Découverte, Tchétchénie, 10 clés pour comprendre. Et bah vous trouverez 10 clés pour comprendre le conflit en Tchétchénie. Il est règlement, c'est un livre qui est règlement, voilà, qui est régulièrement remis à jour. La dernière édition date de 2005. La prochaine, peut-être cette année, je ne sais pas.
Ah, je ne sais pas non plus. Ça dépend un peu de l'ensemble des auteurs et puis de ce qu'on voudra dire en particulier. Peut-être qu'on voudra plus parler des réfugiés la prochaine fois. Enfin voilà, on n'est pas encore sûr.
D'accord.
Voilà, écoute, merci beaucoup d'être venu tenter de nous expliquer ce qu'est encore actuellement l'occupation et la guerre en Tchétchénie.